Dans le magazine de Cannes en français ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir la docteure Joëlle Zinger. Bonsoir docteur.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Eh ben moi ça va très bien, on va parler d'un sujet important. Vous êtes endocrinologue spécialisé dans le diabète, vous êtes au centre DMC qui traite le ou les diabètes, on va en parler. Et ce soir vous allez nous parler d'un sujet assez étonnant, les influences du post-traumatisme sur la glycémie, donc sur le diabète. Alors est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer ce qu'est le diabète ou les diabètes ?
Alors, le diabète, comme définition, c'est d'avoir un sucre qui, ou une glycémie, un glucose qui est trop élevé dans le sang. On a tous besoin d'avoir du glucose comme énergie dans notre corps, mais quand il est trop élevé, au-dessus de 124, on a un diabète. Et le diabète peut avoir des causes qui sont très différentes. On peut avoir un diabète parce qu'on n'a pas assez de l'insuline, qui est l'hormone qui nous permet d'utiliser ce glucose et de le faire rentrer là où il doit être, dans les muscles, dans le foie, dans le cerveau, etc., etc. Ou parfois, on a un diabète, qui est un diabète de type 2 dans ces cas-là, qui est lié au fait que cette insuline ne marche pas comme elle devrait le faire, et on a une, ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Il y a aussi d'autres diabètes qui sont liés ou à des causes génétiques ou à des maladies endocriniennes de tout type, qui peuvent être un excès de cortisol, un excès de catécholamine, etc., etc. Mais disons que les diabètes les plus fréquents sont les diabètes de type 1, où il y a un manque d'insuline, et les diabètes de type 2, où on a une résistance à cette hormone qui existe en ces moments-là dans notre corps, mais qui ne fait pas exactement le travail qu'elle devrait faire. Et la conséquence de tous les diabètes est qu'on a un taux trop élevé de glucose dans le sang.
Et ça c'est en partie à cause d'une mauvaise fonction du pancréas.
Effectivement, mais le pancréas ne fonctionne pas normalement dans les diabètes de type 1 et dans les diabètes de type 2, mais le mauvais fonctionnement n'est pas le même. C'est-à-dire que dans le diabète de type 1, les cellules qui sont censées sécréter de l'insuline due à un processus en général auto-immun, je vais vous le définir ce que c'est l'auto-immunité dans une minute, il y a en fait une destruction des cellules qui peut être rapide ou lente, mais qui existe, et donc on n'a plus de production d'insuline.
D'accord.
Dans les diabètes de type 2, on a aussi un malfonctionnement du pancréas, mais pas seulement. On a un malfonctionnement du pancréas parce qu'on sait aujourd'hui que génétiquement parlant, il y a des gens qui vont sécréter moins d'insuline que d'autres, donc il y a un problème génétique, mais souvent, ce qui crée ça, c'est qu'on a d'autres pathologies. Par exemple, on peut avoir de l'obésité, on peut avoir ne pas beaucoup bouger. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne bougent pas beaucoup et qui travaillent essentiellement assises. Les jeunes et les enfants voient beaucoup de télévision. Toutes ces choses-là sont des facteurs de risque pour créer cette résistance à l'insuline qui est la cause principale de diabète de type 2.
Et donc, quand on a un excès de glycémie, un excès de sucre qui n'est pas régulé par l'insuline, que l'on produit mal, il peut se passer quoi ? Quelles peuvent être les conséquences, les conséquences principales ou d'ailleurs les pires du diabète ?
Ok. Alors, les conséquences principales du diabète peuvent être ou aiguës ou chroniques. Donc, dans les conséquences aiguës, on a un taux très élevé de glucose dans le sang, on a tout d'un coup, on a très soif, on est très fatigué, on a besoin d'uriner très fréquemment. Chez les gens qui n'ont plus d'insuline, c'est quelque chose qu'il faut savoir déterminer rapidement parce qu'il faut leur donner de l'insuline assez rapidement. Mm-hmm. Dans les diabètes de type 2, c'est très rare, ou c'est plus rare, disons, ça existe parfois, mais c'est plus rare. On a aussi ces symptômes, mais disons que c'est pas la façon dont la maladie se présente. Ça, ce sont les problèmes aigus du diabète. Il y a des problèmes qui sont des problèmes chroniques. Notre corps n'aime pas avoir un taux trop élevé de glucose dans le sang. Et du coup, il y a une création d'inflammation qui fait des perturbations au niveau de différents organes. Alors, ça peut être les vaisseaux sanguins, Ça peut être le foie, ça peut être les reins, ça peut être les yeux, ça peut être le cerveau. Donc, la raison de toutes ces complications est liée au fait qu'il y a une perturbation due à une inflammation au niveau des vaisseaux sanguins et des grands vaisseaux, ce qu'on appelle les vaisseaux par exemple, du cœur ou les grands vaisseaux qui irriguent nos muscles, mais aussi des petits vaisseaux, comme les vaisseaux qu'on a dans la rétine, dans les yeux, peuvent avoir une perturbation, et ces perturbations nous donnent des complications et des maladies qui sont liées au diabète.
Ok, alors ça, donc maintenant qu'on a défini le diabète, on va essayer de se tourner vers le post-traumatisme. Qu'est-ce que c'est que le post-traumatisme et comment est-ce qu'aujourd'hui ça devient d'autant plus d'actualité ?
Okay. Alors, le post-traumatisme est une maladie qui est liée au stress. Le stress est un processus que nous avons tous et qui est très utile si, par exemple, il y a un lion qui rentre dans votre cour. Donc, c'est bien d'avoir du stress parce que à ce moment-là, on va pouvoir courir et se mettre à l'abri. Ça, c'est parfait. Mais parfois, le stress est chronique. Et c'est en fait la définition, le post-trauma, le stress est chronique. Et cette chronicité induit des complications. Et elle induit des complications qui peuvent être une élévation de la glycémie, donc on parle du diabète. Il y a aussi d'autres conséquences comme une incidence plus grave, par exemple de dépression ou de troubles psychologiques. Donc le post-trauma a des complications qui sont métaboliques et d'autres, et elles sont liées au fait qu'on sécrète un peu plus de cortisol, mais pas de façon aiguë, de façon chronique, et qu'on n'est pas capable, après cette sécrétion aiguë, de revenir à un taux normal. Donc, on a un taux qui est un tout petit peu trop élevé. Et ceci peut nous causer un diabète.
Alors, j'imagine qu'avec les événements, la guerre depuis le 7 octobre et le stress général dans lequel se trouve la population israélienne, ce sont des phénomènes que vous avez dû constater d'autant plus ces derniers mois.
Tout à fait. Alors, dans ces derniers mois, le stress est très élevé et au niveau de la population générale et des enfants et au niveau évidemment des soldats. Et des gens qui sont dans le sud, dans le nord. Donc, on a beaucoup de causes de stress. Le problème supplémentaire est que quand on est inquiet, on bouge moins, ce qui est encore une cause supplémentaire d'élévation de la glycémie. Et parfois, on mange plus. Donc, en fait, il y a aussi des problèmes comportementaux qui sont liés à ce stress et à ce stress qui peut être post-traumatique. Et parfois, les gens ont une aggravation de leur glycémie. Alors aujourd'hui, on peut mesurer la glycémie de façon continue. On peut la mesurer avec, par exemple, le Freestyle Libre, qui est en fait un sensor, une sorte de sensor qui nous permet d'avoir toutes les minutes le taux de glucose et de voir s'il monte, s'il descend, etc. Donc c'est quelque chose, aujourd'hui, on peut voir ça de façon beaucoup plus efficace qu'on le voyait chez les personnes qui ont déjà un diabète. Mais il y a aussi des gens qui n'avaient pas de diabète et qui, tout d'un coup, peuvent avoir un diabète ou un taux trop élevé, un prédiabète de glucose dans le sang.
Et est-ce que vous avez constaté des gens qui sont venus vous parler ? Parce que quand on est dans un état post-traumatique ou dans un état de stress quelconque, on ne se rend peut-être pas forcément compte que ça a engendré un prédiabète ou un diabète. Comment est-ce qu'on peut savoir ça ?
Alors, c'est évident qu'on s'en rend pas compte, mais ce dont les gens se rendent compte, c'est qu'ils ne se sentent pas bien. En fait, quand on est dans un post-trauma, on a plus de mal à communiquer, on est plus angoissé, on a moins envie de bouger. Et quand ça arrive, enfin, il arrive qu'il y ait une glycémie qui monte trop, on peut avoir justement tous les signes aigus dont je vous ai parlé tout à l'heure, ouais. C'est-à-dire d'uriner plus, de boire plus, de vouloir manger. Donc ça, c'est une présentation aiguë. Mais les gens qui ont déjà un diabète, en général, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui sont reliés à ce type de sensors qui mesurent la glycémie, comme le Freestyle Libre. Et on peut voir l'augmentation de la glycémie. Et en fait, comme c'est une partie de l'éducation thérapeutique des patients, parfois ils viennent consulter parce qu'ils voient que c'est ce qui se passe. Il y a d'autres moyens de mesurer en fait la glycémie, mais ça, c'en est une qui est facile d'accès pour les patients.
Ouais, alors juste pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que le freestyle libre, moi j'ai été confrontée récemment à une amie qui en a un. C'est une petite aiguille qu'on pose sur le bras et qui reste en place pendant 2 semaines, c'est bien ça? Et on met près de ce petit appareil, on approche donc un sensor qui va calculer immédiatement combien on a de glycémie dans le sang. Et donc il ne faut jamais dépasser 124, vous me dites.
Ok, alors aujourd'hui...
Ça, c'est pas le matin, Jean.
Alors, aujourd'hui, les définitions... Il y a une différence entre ce qui nous aide à faire un diagnostic de diabète et ce qui nous permet de faire un suivi du diabète. Donc aujourd'hui, quand on veut que quelqu'un soit bien équilibré, si ces personnes ont ont ce sensor, par exemple, freestyle libre, on a une notion qui s'appelle le temps dans le time in target, le temps dans le...
Ciblé.
Le temps ciblé. Et on voudrait que le temps ciblé, c'est-à-dire que 70% du temps, la glycémie soit entre 70 et 180. Mm-hmm. Voilà. Donc, les gens qui sont bien équilibrés, c'est quand ils ont au moins 70% du temps dans cette cible entre 70 et 180, et plus on augmente, disons, le pourcentage de temps qui est bien équilibré, moins on a de risques de complications du diabète, ce qui est en fait le but du traitement. Donc ces sensors nous aident aussi à vérifier ça au jour le jour et être plus près de ce qui se passe, parce qu'il y a d'autres, par exemple, mesures comme l'hémoglobine et A1C, qui nous permet aussi de mesurer l'équilibre du diabète, mais c'est quelque chose qu'on fait en général tous les 3 mois. Tandis que là, c'est quelque chose qu'on peut voir au jour le jour.
Et alors, j'en reviens à ma question initiale. Comment est-ce qu'une personne lambda, qui n'a jamais eu de problème de diabète, va découvrir qu'elle a développé un diabète ou un pré-diabète en faisant le lien? C'est-à-dire que ça ne me serait jamais venu à l'idée de vérifier si j'ai du diabète, juste parce que, comme tout un chacun, j'ai eu une dose X, Y ou Z de stress en fonction de ce que j'ai fait ces derniers mois.
Ok, alors... D'abord, il faut quand même aussi être conscient que, bien qu'il y ait une certaine dose de stress, tout le monde n'est pas dans ce qu'on appelle un syndrome post-traumatique. Okay, il y a une sorte de gradient. Non, pas tout le monde. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi remettre les choses un petit peu dans l'élément général et regarder ça en gros. Donc le syndrome post-traumatique, qui peut être très important, en général, provoque aussi d'autres symptômes, une grande fatigue, une difficulté à dormir, d'autres symptômes, pas forcément les symptômes aigus du diabète, mais qui parfois poussent les gens à consulter. Ouais. Et dans ces moments-là, en fait, si le médecin généraliste demande en fait des examens simples, qui sont des examens sanguins, on peut faire le diagnostic de diabète assez facilement. Si c'est très aigu, en général, les gens vont consulter, mais même quand c'est chronique et juste il y a une fatigue, une insomnie, un manque de volonté de parler avec les gens, etc. Parfois aussi, les gens vont demander conseil à leur médecin traitant, ce qui est normal, je veux dire, parce que ce n'est pas un état qui est leur état habituel.
Donc j'imagine que depuis le 7 octobre et dans les semaines qui vont suivre encore, vous avez redoublé de ce genre de diagnostic.
Tout à fait. Par exemple, pendant la période du corona, où on a déjà plus de données, disons, de recherche qui a été faite là-dessus, on s'est aperçu qu'il y avait une augmentation des gens qui étaient moins bien équilibrés et aussi de nouveaux diabètes.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, docteur Joël Zinger, pour cette analyse et cet éclairage qui sont très importants. Vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, je voudrais rajouter le fait que, bien que nous soyons stressés, nous avons vraiment besoin de faire de l'exercice physique tous les jours. Je sais que c'est parfois très difficile quand on est angoissé, mais c'est une des façons qui permet de réduire le stress. Et donc, c'est mon conseil, en tout cas pour les gens qui ne sont pas diabétiques, évidemment, les gens qui sont diabétiques, on a besoin d'autres conseils, mais pour la population générale, c'est justement de ne pas regarder sans cesse les informations et de faire de façon régulière de l'exercice physique. Ça peut être de la marche, ça peut être bouger plus dans sa maison, ça peut être pour les gens qui aiment ça, faire du vélo ou autre chose, mais d'en faire très régulièrement, parce que c'est quelque chose qui permet de diminuer le stress.
Ça, de toute façon, le sport, c'est vraiment le consensus. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est vraiment quelque chose de très bénéfique. Merci beaucoup, docteur Joël Zinger, et à bientôt sur Canon Français.
Merci beaucoup et à bientôt.